Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM Radio avec Claude Lévy. Ce soir, je vous invite à sortir de chez vous. Je vous invite à aller au théâtre pour une pièce bouleversante qui se joue encore pour quelques semaines à Paris. Une pièce à ne pas manquer, une pièce qui va vous toucher par ses mots, par ses voix, par ce qu'elle raconte d'une histoire ou plusieurs histoires qui n'en finissent pas de nous troubler, de nous tourmenter. Une pièce merveilleusement interprétée par une troupe de comédiennes et de comédiens remarquables. Cette pièce s'intitule, d'un très beau titre d'ailleurs, je le souligne, « Le silence des lendemains ». Et ce silence en dit long sur la vie des personnages, sur la vie d'une époque, celle de l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui. Je me trouve au théâtre du Nord-Ouest, tout près des grands boulevards, avec l'auteur et metteur en scène de ce spectacle fort, Nicole Gros. Bonsoir Nicole Gros.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir dans ce très beau théâtre très parisien, alors que vous-même et vos comédiens, vous sortez de scène sous les applaudissements d'une salle émue, profondément émue et enthousiaste. Vous venez de nous offrir un très beau moment d'une rare intensité. Nous allons parler de cette pièce, Le silence des lendemains, avec vous, Nicole Gros, mais j'aimerais tout d'abord demander aux comédiennes et comédiens qui sont avec nous, qui nous ont rejoints, et je les en remercie, de nous dire ce qu'ils ressentent profondément après avoir joué ce spectacle. Alors on va se diriger vers celle qui joue Agnès. Agnès qui est un des personnages. On racontera un petit peu l'histoire. Et Agnès, ce n'est pas moins que Jade Lenoir. Comment est-ce que vous ressortez de scène après avoir joué ce moment assez fort?
Je pense qu'on traîne avec soi l'histoire qu'on vient de raconter. Encore avec nous, oui. Une émotion, et en même temps une légèreté de sortir de cette lourdeur quelque part. Quelque chose de libérateur.
Vous êtes libéré. On va poser la question.
Une légèreté d'après avoir joué un souffle, quoi.
Voilà. On va poser la question à vos amis. En fait, la pièce est très bouleversante, mais l'équipe de comédiens et de comédiennes est très drôle. Donc on va passer un assez bon moment avec notre émission. On va se tourner vers un père, hein, parce que là on a deux générations qui se rencontrent. Là c'est pas le père d'Agnès, c'est le père d'Hélène, vers qui je vais me tourner et qui s'appelle Michel Morat. Ça tombe bien, Morat, ça nous dit quelque chose à Enghien, puisque la radio se trouve rue de Morat.
Ah bah ça tombe bien alors. Bonsoir.
Comment vous vous sentez après avoir joué ce rôle difficile qui passe de l'ombre à la lumière, mais beaucoup dans l'ombre quand même?
Je me sens plein de mots que je ne dis pas sur scène en fait. Je sens, après ce silence, parce que j'ai pas beaucoup de mots à défendre, j'ai plutôt des émotions à partager. Donc y a plein de mots qui me reviennent, quoi. J'ai surtout une pensée pour mes parents, parce que en fait, cette histoire me le rappelle.
Ça rappelle l'histoire de vos parents.
Oui.
Vous êtes un homme déjà mûr, dirait-on.
Oui, c'est ça, on peut dire ça.
Et voilà, les parents ont peut-être vécu des moments aussi forts que ça. On va se tourner vers Isabelle, tiens. Isabelle qui joue votre femme,
oui.
Michel. Isabelle qui s'appelle Sarah. Dans la pièce, une mère juive, on peut le dire.
Oui, bonsoir. Donc comment je me sens, c'est toujours un peu chargé en émotions pendant et après. Il faut un petit moment pour redescendre, effectivement, comme disent mes camarades. Et c'est toujours un peu différent, bien sûr, en fonction de ce qui s'est passé sur scène. Et comme le disait mon partenaire, effectivement, notre première partie avec la famille Rosen, on est très silencieux, comme l'annonce le titre. Et il faut être assez chargé pour jouer ce genre de rôle,
pour
jouer les silences, exactement.
Ouais. Oui, pour un comédien, c'est très, très difficile. C'est comme pour quelqu'un de radio. Oui. Vous voyez, les silences, c'est très, très difficile à faire. Alors, merci Isabelle. On va se tourner vers votre fille, un des personnages clés de la pièce. Hélène qui est vraiment le témoin. Et Hélène, c'est Clara.
C'est ça.
On va lui demander, là vous avez un rôle difficile de jeune fille. Oui. On racontera un petit peu le contexte. Mais là, dans l'immédiat, vous êtes aussi, comme Agnès, comme Jade, assez libérée.
Oui, tout à fait. Surtout bouleversée. Et puis, à chaque fin de représentation, forcément, c'est tout le temps des émotions différentes qui viennent se greffer. Et moi, comme aussi cette première partie, mon jeu me fait écho dans ma vie personnelle. C'est vrai que ça me touche particulièrement. Et à chaque fin de représentation, lors des applaudissements, j'ai toujours une montée d'émotion à chaque fois qui me vient comme ça, subitement. Et c'est très beau.
On comprend cette émotion parce que vous la suscitez aussi chez les spectateurs très très profondément. On a des personnages qui sont dans la pièce de Nicole Gros. Je l'ai à côté de moi, Nicole. Deux personnages, une famille, la famille des Essarts. Alors là, on est dans un autre monde, un autre contexte. Le père, qui est Bernard Sander, Bernard en juge pas très sympathique, on peut pas le dire. Hein. C'est pas facile pour vous de jouer un rôle comme ça. Comment vous vous sentez là, tout de suite?
Bien,
laissez-moi le micro.
En tant que doyen de mes camarades, vous m'auriez posé la question quand j'avais l'âge de ma fille, enfin de Agnès dans la pièce. J'aurais répondu aussi le bouleversement, l'émotion. Le bouleversement, j'interviens en deuxième partie, donc, enfin en deuxième journée. Et j'ai le bouleversement en entendant mes camarades et la famille Rosen jouer. Bon, après, quand je suis sur le plateau, je peux pas dire que j'ai le bouleversement, puisque la scène que je joue avec Anne n'est pas forcément aussi bouleversante que le drame de la famille juive qu'on entendait. Simplement, ce que je ressens, et c'est là, quand le spectacle est terminé, c'est la satisfaction du boulot bien fait, et de mes camarades aussi. Et c'est vrai qu'on est un groupe, vous l'avez dit au début en introduction, ça passe, c'est formidable, et voilà, c'est la grande satisfaction. Je suis plus satisfait que bouleversé, en tant que comédien. Après, c'est au public qu'il faudrait poser ces questions-là, c'est lui qui a la clé de la réponse.
La réponse est oui, bien sûr, on est très touché, très bouleversé par les situations que vous mettez devant nous. On va se tourner vers Madame Desessa. Anne, je trouve que vous avez tout à fait le style des Essarts.
je sais pas si je dois le prendre comme un compliment.
Enfin, a priori, tout le monde en rigole.
Alors, pour les auditeurs, je veux quand même préciser que Madame des Essarts et Monsieur des Essarts, d'ailleurs c'est le couple de la bonne bourgeoisie provinciale des années 60, donc on peut imaginer le vestimentaire et surtout la tenue et tous les non-dits. Et cette femme soumise va un petit peu se rebeller. Elle va surtout percer l'abcès, je pense. Voilà, c'est pour ça que moi, ce que je ressens, c'est une grande bouffée d'oxygène, surtout avec ma petite Jadouille à la fin. avec Jeanne, ma fille. Voilà, parce qu'en effet, j'ai l'impression de clore l'histoire, de la faire avancer en tous les cas.
Oui, il y a des moments où l'histoire est absolument étouffante, je dirais, dans la salle. Vous créez cette impression d'un poids très lourd. précisément par vos silences et par le texte qui est vraiment ciselé par Nicole Gros. Vous savez ce qu'on va faire ? Avant de reparler de la pièce, on va écouter un peu de musique. On va écouter le choix musical de Nicole Gros, qui adore les chansons, la chanson française. Vous avez choisi Léo Ferré.
Léo Ferré, oui. Léo Ferré, Barbara, Anne Sylvestre, ça c'est mes amis aussi, je suis d'accord.
Mais on va commencer par Léo Ferré. Léo Ferré. Avec le temps.
Avec le temps. Oui, pour moi, c'est une des plus belles chansons de toujours, quoi.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.
Avec le temps, voilà, on est toujours bien sûr dans le théâtre, dans les loges du théâtre du Nord-Ouest. On n'est pas très loin de l'entrée du prochain spectacle, donc on entend le bruit des spectateurs d'avant le spectacle. Et on est toujours en compagnie de Nicole Gros et de sa troupe de comédiens, et j'aimerais que l'on parle maintenant de cette pièce. Le silence ou les silences du lendemain.
Oui, le silence.
Le silence des lendemains.
Des lendemains, oui.
Bon. Qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, la question qui m'est souvent posée, c'est autobiographique, c'est même pas une question. C'est une fiction. Mais. Quels sont les enfants ou les plus jeunes adultes et même les gens vieillissants qui n'ont pas vécu des secrets de famille, des non-dits, des silences, hein. Je crois que le silence dans la famille, c'est pour ça que je le fais dire dans la pièce, hein, la famille c'est pas fait pour les confidences. Et puis la famille, on ne parle pas. Et ça, je crois, on parle plus facilement avec des amis qu'avec les proches, pour des tas de raisons, hein. Et on ne peut pas juger, d'ailleurs c'est pas un jugement, c'est pas un procès, mais les proches, la famille, on a sans doute une pudeur, quelque chose comme ça.
Voilà. Dans les années 60, là où vous placez la situation à la fois chez les Rosen et chez les Des Essarts, dans les années 60, c'était une vraie question qui se posait. D'ailleurs, c'est Hélène qui la pose à un moment. Est-ce que tu connais tes parents ? Est-ce que tu parles avec tes parents ? C'est une question que vous, Nicole Gros, vous nous posez.
Je crois que tout le monde, beaucoup de gens peuvent se poser. Alors, quelquefois, il y a des rapports fusionnels entre enfants et parents, mais c'est rare ici. Enfin, c'est rare quand même. Tout au moins, à l'âge de l'adolescence, il y a des époques, quoi, après. Et souvent, il y a des spectateurs qui me l'ont dit d'ailleurs, après le spectacle, ils m'ont dit, et moi-même, je me le dis, on ne pose pas, quand on est jeune, on ne pose pas assez de questions. Et après, on laisse le temps passer. Et moi, je me le dis aussi, pourquoi je n'ai pas posé de questions, moi ? Mes parents, ils ont vécu la guerre. Bon, je n'ai pas posé de questions. Ils ne parlaient pas beaucoup, hein, pour d'autres raisons. Enfin, ils n'en parlaient pas. Mais on ne pose pas les questions. Et voilà quoi. Et puis quelles que soient les guerres, la guerre d'Algérie aujourd'hui, on soulève les couvercles un peu plus tardivement encore. Mais voilà, aujourd'hui, les langues se délient. Mais il faut quelquefois deux, trois générations pour que, tout à coup, voilà. Et ça, nombreux sont les témoignages comme ça. Alors, avec la grande histoire, et notamment la Shoah, bon, on voit toutes les blessures, tous les secrets enfouis, toute l'impossibilité de partir, de parler. Comment raconter l'indicible? Et de toute façon, on ne voulait pas les écouter. Hein? Bon, ça.
Vous avez écrit plusieurs pièces, Nicole Gros. Ce thème revient de.
Non, du, pas, de, pas d'une la pièce Shoah, à l'autre. Mais, enfin, non. Si, j'ai écrit une pièce sur. On en a parlé un peu tout à l'heure. Sur une femme qui vient enterrer sa mère, et ça a été une étrangère, une inconnue, une rasthénique, et elle apprend, elle va enquêter. Du coup, elle va rester dans cette maison, elle va essayer d'enquêter, et elle va finir par découvrir que sa mère, qu'elle est la fille d'un Allemand, qui a été d'ailleurs abattu aux dernières heures de l'occupation, et qu'elle a été une femme tendue, voilà. Et qu'elle ne s'est jamais remise, cette femme, de cette blessure, de ce traumatisme, voilà.
Si on posait la question aux jeunes, une génération après, ou deux générations après, elles ont une vingtaine d'années, comment elles se posent, elles ont posé la question aux parents du dialogue entre eux, de leur origine, puisque dans la pièce, il est question des origines et d'une sorte de mystère autour des origines. Mmh. Est-ce que aujourd'hui, en 2023, des jeunes, comédiennes ou pas, vos copines de lycée, vos copains, ont-ils cette question en tête que nous pouvions avoir dans les années 60, où le dialogue avec les parents n'était pas très simple? Hein, on demandera aussi à notre génération. Non, pas Hélène.
Clara.
Clara.
Oui. Pour ma part, en tout cas, je pense que ça dépend parfaitement des familles. Ça, bien sûr. Moi, je ne me cache pas à poser des questions, je n'ai aucun souci avec ça. Après, il y a des réponses, il n'y en a pas, c'est comme ça.
Il y a des silences ?
Oui, oui.
Il y a quand même des silences ?
Il y en a, il y en a, il y a des silences, mais voilà, après aussi, il faut peut-être du temps. Avec le temps, va tout s'en va. Donc, pas tellement non plus, mais... Mais oui, je pense que c'est une question qu'on pose encore, enfin, à notre époque, tout à fait.
On va poser la question à Jade, puisqu'elle est là. Vous avez quel âge, Jade ?
19 ans.
19 ans.
Voilà.
Donc, tout à fait idéal pour le rôle.
Eh ben, voilà.
La question des origines, ou bien la question de comment est-ce qu'on se parle entre enfants et parents ?
Il me semble que l'innocence peut nous faire poser ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est ce que ça raconte dans la pièce. C'est peut-être l'innocence des deux jeunes filles qui va percer des secrets qui étaient bien plus lourds et auxquels on ne touchait pas. Je crois que, enfin, moi, je suis quelqu'un qui pose des questions, donc je l'ai pas vécu ce silence-là, pas aussi fort en tout cas. Par contre, il y a On se reconnaît quand même dans la difficulté de poser les questions, je crois. Dans la difficulté de... Quand on se rend compte qu'on tombe en face de quelque chose qui est lourd, qui est pesant.
On a l'impression qu'avec les adultes, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a une sorte d'équivalent, même trop parfois, de copinage presque entre parents et enfants. Mais Nicole n'a pas l'air d'approuver.
Non, parce que le copinage, c'est une chose. Mais je suis pas sûre qu'on aborde des questions de fond. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de familles où il y a des placards bien pleins et qu'on n'aborde pas. C'est le copinage, c'est une chose, et puis il y a toute la technologie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui dispersent aussi. Alors bon, c'est comme ça. Mais je crois pas. Je crois que je crois pas dans le progrès. Le progrès ne se situe pas là. Je crois pas, moi. Mais enfin.
On va poser la question à Anne, Anne qui est la Madame des Essarts dans son rôle, mais qui autrement dans la vie peut avoir un point de vue sur ce rapport entre parents et enfants qui est quand même au centre de la pièce, mais qu'on peut avoir vécu soi-même. Anne.
Alors, pour ma part, j'ai pas d'enfants, donc, mais je vois et je travaille souvent avec des enfants, donc je vois bien un peu comment ça fonctionne, et je trouve que la parole a pris beaucoup de liberté, et tant mieux parce que comme Nicole, je vais pas raconter toute ma vie, mais je suis issue d'une famille avec beaucoup de secrets, des secrets qui, malheureusement d'ailleurs, ne me sont toujours pas dévoilés, donc je ne sais toujours pas beaucoup de choses, donc je suis complètement là-dedans, mais bon, après, ça, chacun fait sa salade avec, hein, et on avance dans l'âge avec aussi, et voilà, mais je trouve que les jeunes ont une facilité. J'étais de cette génération des années 60, je suis née en 60, où on posait des questions, exactement la phrase qu'on entend, est-ce que ce sont des souvenirs à partager avec un enfant? C'est une phrase que je dis, que mon personnage prononce, et c'est exactement ce que moi j'entendais quand j'étais petite et que je posais des questions.
Et comment on vous y répondait?
Ça ne te regarde pas, ma fille. Est-ce que ce ne sont pas des choses dont on parle avec des enfants? Donc, va dans ta chambre. C'était dit gentiment, poliment, mais il fallait que je ferme mon petit clapet.
On va poser la question aux hommes, puis parce que ils sont quand même aussi concernés par cette question-là. C'est pas que les filles ou les femmes qui ont eu à se confronter à la parole des parents ou au silence des parents. On va poser la question à Bernard Sander.
J'ai été aussi confronté à cette situation, tout le monde d'ailleurs, mais mes grands-parents immigrés de Roumanie, mon père prisonnier en Allemagne pendant le STO. Bon,
vous le saviez ça?
Je l'ai su petit à petit, j'ai fait une sorte de puzzle, c'est-à-dire que en grandissant, bon, j'ai reconstitué un petit peu le puzzle, maintenant il est reconstitué, mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine, et je reviens sur ce que disait Nicole au début de l'entretien, c'est vrai que les enfants peut-être aujourd'hui, pendant très longtemps j'ai regretté de ne pas avoir posé à mon grand-père des questions, à mon père, bon, mais je ne pouvais pas à l'époque, j'étais jeune, adolescent, je n'avais pas les moyens, et puis après j'ai réfléchi, et j'en arrive maintenant dans ma vie à me dire, mes parents et mes grands-parents auraient dû m'apprendre, me prendre la main, me dire, regarde ce qu'on a vécu, regarde ce qu'on a fait, ils ne m'ont rien dit, c'est moi qui est obligé après de reconstituer, alors je ne dis pas que je leur en veux, mais voilà, ça explique aujourd'hui voilà cette situation.
C'est comme ça qu'on devient comédien.
Je ne sais pas si c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a un rapport?
Il y a un rapport, je pense.
Voilà, non, mais je me pose encore la question, mais c'est pas forcément la faute des enfants qui ne posent pas des questions, c'est les parents qui devraient.
Alors, je voudrais
rajouter
une chose. C'est que, d'accord, les parents, mais les parents eux-mêmes ont vécu cette espèce d'omerta sur leurs oreilles. Enfin, moi, mes parents ne connaissaient à peine ou pas leurs propres parents. Mon père, je vous raconte une petite anecdote, ne sait même pas où ses parents sont enterrés. Donc voilà. Et mon père est décédé avec ce mystère. Il y en a plein d'autres hein, dans la famille. Mais c'est un petit exemple. Donc lui-même était victime de ces silences et de ces espèces de couvercles comme ça sur et des origines et un devenir d'un aïeul. Donc tout ça.
Nicole.
Bernard disait que tes parents auraient dû, tes grands-parents. Mais vu leur vie, ils ont eu une vie dure et c'est absolument invraisemblable, mais ils avaient certainement une honte. C'est-à-dire que les parents, ils veulent le devenir de leurs enfants. Et s'ils ont eu une vie précaire et tout ça, il faut effacer ça. Toi, tu ne vivras pas ça. Donc, on n'en parle pas. Ça, c'est partout. Hein, on voit ça partout. Hein. C'est terrible. Une honte, alors que il n'y a pas de honte à avoir lutté, à avoir fait sa vie, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a tout ça, il y a tous ces sentiments.
Oui, c'est très intéressant. On va poser cette question à Michel Morat, qui a connu ce rapport du silence par rapport aux origines.
Oui, moi aussi, je suis né dans les années 60, donc comme Anne. Il y a une différence d'époque à un moment donné. C'est vrai que pendant les 30 Glorieuses, les parents, après, avaient surtout le désir d'oublier ce qu'ils avaient vécu. Et nous, on était dans une légèreté. Bon, après, on est tombé dans les années 69-70, donc on avait d'autres questions par rapport à ça. Mais quand on a commencé, quand j'étais adulte, j'ai commencé à 20 ans et quelques, à poser des questions précises sur ce qu'ils ont pu avoir vécu, c'était presque trop tard, parce qu'en fait, ça leur faisait beaucoup de mal. Je pense que c'est toute une génération qui, après la guerre, n'a pas eu de psychologue, de psychanalyste, de gens qui ont pu les aider à ce moment-là, comme on peut trouver maintenant après un attentat, après une guerre, après des choses atroces comme ça, comme ce qu'ils ont vécu. Donc on oublie, on efface. L'anecdote, c'est que mes parents, après, à leur retraite, sont partis dans un petit village dans l'Orne, et il fallait surtout pas qu'ils disent qu'ils étaient juifs. Parce que, non, on ne dit rien. Et toute ma vie, j'ai entendu ça, non, on ne dit rien, voilà. C'est pas grave. Et alors, quand ils croisaient le curé, ils disaient, mais je vois pas l'église. Non, on a autre chose à faire. Donc, voilà. Et après, j'ai pu écrire avec mes frères, on a pu retracer, les enregistrer. Mais c'était entrecoupé de douleurs, de souffrances, de choses qu'ils avaient oubliées. On revenait en arrière, en avant. Alors, j'en ai su un petit peu plus au mémorial de la Shoah, puisqu'en fait, il y a notre nom là-bas, il y a des photos, grâce à tout le travail qui a été fait, aussi bien par Steven Spielberg que Simon Wiesenthal, enfin, que tous ces juifs qui ont aidé, justement. Et ma mère m'avait quand même dit, mais quand on est parti, on a sorti, on est après la guerre, il y a quand même eu toute plein d'avocats qui sont venus nous aider pour retrouver notre appartement, puisqu'on nous l'avait spolié et pris. Donc, gratuitement, les avocats juifs sont venus et les associations sont venues les aider, leur donner des vêtements, etc. Donc, il y a eu quand même une solidarité.
Alors, écoutez, cette discussion nous amène aux années 60 et à des non-dits, et vous avez aussi choisi de nous faire entendre une chanteuse qui n'était pas en manque de vérité, malheureusement, qui a eu aussi à raconter, qui s'est racontée, et vous nous proposez d'écouter La petite cantate de Barbara.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa, sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Note courte et facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la maladie, similaire et sans dauphin. Mais tu es partie fragile vers l'au-delà. Et je reste maladie, face au dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon, je joue, toi chante là pour moi. Similaire et si sans dauphin. Similaire et si sol do fa. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Et ce soir, je suis très, très, très bien entouré de Nicole Gros, metteur en scène et auteur de cette pièce qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest, le silence des lendemains. Le silence des lendemains, on parle vraiment de silence et de non-dit. Il se trouve que on y évoque aussi dans cette pièce beaucoup le souvenir de à partir d'une valise. Et il se trouve que il y a un moment dans la pièce, un moment assez charnière, où le père, qui était silencieux jusqu'à présent, et la mère, tous les deux, ce couple-là, qui était tendu, silencieux, se trouve libéré, grâce d'ailleurs à leur fille Hélène, et à qui ils remettent le contenu d'une valise. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette valise? On va poser la question à Isabelle, qui est Sarah dans la pièce, et qui dénoue un peu la situation intérieure de leur fille Hélène. Isabelle.
Oui, effectivement, comme vous dites, après la première partie, on arrive à se délivrer grâce à notre fille. Et c'est ça qui est beau aussi dans les générations, c'est que tout d'un coup, il y a une telle demande, en fait, qu'on ne pouvait pas faire autrement que de dire. Tout d'un coup, à ce moment-là, parce que je le dis, enfin mon personnage le dit, tu nous réveilles aujourd'hui et tu nous libères. C'est la dernière chose que je lui dis avant qu'elle ouvre justement cette fameuse valise qu'on a enfermée, cachée et qu'on a oubliée, comme on le dit également. Et à l'intérieur, il y a tous les souvenirs, toute la vie, tout ce qui a été caché pendant tant d'années et enfui et comment on peut dire aide-moi Michel. Je cherche le mot en fait. On se vit par et justement le silence. Oui. Dit tout ce qu'il y a dans cette valise. Tout le silence qu'on dit pendant le début de, enfin toute la première partie, c'est tout ce qu'on ne dit pas. Est dans cette valise, voilà. Si vous voulez. Voilà.
Alors, on va poser la question à Hélène, qui s'appelle Clara dans la vraie vie, et qui donc découvre une histoire, qui découvre son histoire. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que dit Hélène, comme si vous étiez sur scène? C'est très, très, très bouleversant ce moment-là. Vous découvrez des photos et vous leur parlez à ces photos.
Oui, tout à fait. Je parle à ces photos également aussi parce que ce sont des membres de ma famille. Donc ça me touche d'autant plus. Et je dis, je prends une photo, Judith 1925. La ressemblance est frappante. Qui es-tu, belle Judith? Une rosaine à n'en pas douter, disparue comme les autres. Rappelle-toi les souvenirs, le silence, etc. Et la dernière phrase qui est pour moi la plus importante, je vais réparer. Je ne sais pas encore comment, mais je vous le promets.
Voilà, c'est ça le fond de cette tragédie des disparus qui provoque en effet une grande émotion, y compris même en dehors de la scène. Et je vais réparer. C'est à la génération, deux générations après, que l'on peut réparer. J'aimerais que l'on puisse poser la question de l'autre côté de la scène, c'est-à-dire chez les Désessars. On a un juge très rigoureux, très imprégné d'une idéologie qu'on pourrait imaginer plutôt vers l'extrême, hein, je ne dis pas de quel côté, mais vers l'extrême, et qui est juge, et à qui sa femme reproche évidemment d'avoir mal jugé des criminels. Il a d'ailleurs rendu la vie impossible chez lui, mais j'aimerais lui poser la question autour de la culpabilité et du reproche permanent. C'est ça qui ressort de ce personnage. Bernard Sander est un homme adorable, mais son personnage, il distille il dit s'il quoi d'ailleurs, la culpabilité.
Signaler surtout, ça tient au talent d'écriture de Nicole, c'est que on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, on se doute, mais il n'y a pas de nom donné. La bibliothèque, bon, on se doute qu'il n'y a pas des Placide Museaux dedans, il y a plutôt du Brasillac ou autre chose. Et puis ce personnage-là, bon, ne se pose pas trop de questions comme il a obéi à des ordres, il a obéi à un règlement, il avait sûrement, comme tous les juges d'instruction de cette époque, prêté serment à Pétain à partir de 1940 et à la libération, enfin disons un an avant la libération, bon, il se trouve confronté à cette épuration, bon, et on ne sait pas du tout, on suppose, bon, qu'il a défendu et qu'il a mal jugé ou qu'il a trop été clément avec la libération des gens qui avaient flirté avec Vichy, qui avaient flirté avec les nazis, mais lui est sûr de lui, il a obéi, donc comme on dit, c'est pas de ma faute, c'est la situation qui était comme ça, j'ai évité une guerre civile,
Mais il le joue dans sa famille. Agnès en est une des victimes et Suzanne aussi, sa femme.
Oui, mais c'est vrai que il est confronté à la réaction de sa fille, mais il reste quand même solide. D'ailleurs, quand ça va pas, il quitte la pièce ou il s'en va. Mais c'est surtout la souffrance et la difficulté vient de mon épouse et puis de la fille pour essayer de creuser. C'est pas lui qui va leur donner les pistes pour savoir ce qui s'est passé, quoi.
Dans les années 60, je m'adresse à Suzanne, Anne Martel, dans les années 60, les femmes étaient, dans cette pièce en tout cas, peut-être dans la vraie vie aussi, sous la domination assez rigide, c'est le moins qu'on puisse dire, de leur mari. Ça a l'air de vous faire... Vous avez l'air de regretter ce temps-là.
Vous avez beaucoup d'humour, Claude. Non, je regrette absolument pas ce temps-là. Vive une belle libération bien assumée par beaucoup de femmes. Non, Paul, c'est vrai que de toute façon, le portrait de cette femme, de Suzanne des Essarts, elle est vraiment à replacer dans ce contexte des années 60. Une femme en plus vraiment d'une certaine bourgeoisie. Donc, on n'ose pas le ton. On ne dit pas certaines choses. On a bien compris. Mais en plus, on ne hausse pas le ton. Et quand il y a la première scène, c'est monsieur qui parle, c'est monsieur qui fait la morale à sa fille. Madame n'a pas la place pour le moment. Madame, après, va se récupérer. Voilà. Et il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir. Elle lui reproche aussi cette fameuse obéissance de l'après-guerre où on disait « j'obéis aux ordres ». Donc une remise en question que Nicole a voulu dans cette petite phrase. L'obéissance est un acte qui ne dispense pas de la pensée, des regrets ou même des remords.
À la désobéissance. Le fameux livre de Le droit à la désobéissance, c'est un très beau livre de celui qui a fondé Médecins du Monde, je crois. Comment il s'appelle? Il n'y est plus maintenant. Bon. Mais moi, je pense que.
On a Nicole Gros qui va apporter son commentaire d'auteur.
Je vais ce qu'a dit Bernard de son personnage. S'il fuit tant la. S'il se réfugie tant dans le silence en famille, s'il est si absent comme le reproche madame, c'est parce qu'en fait, elle a raison, il a une mauvaise conscience, il n'est pas à l'aise avec... il fuit en permanence.
Oui, tout à fait. Oui.
Hein, t'es d'accord avec ça? Il fuit, et il est dans la fuite perpétuelle, dans l'évitement, voilà.
Dans l'évitement, mais c'est ça, je crois, qu'il fait toutes les relations, toute la tension qui se crée entre tous ces personnages. Mais on a la chance d'avoir la jeunesse.
Oui.
Et la jeunesse, elle sait recoudre, raccommoder, comme disait tout à l'heure Hélène.
Dans toutes les époques, d'ailleurs.
Dans toutes les époques.
Oui, tout à fait. Oui.
La jeunesse est aussi opposée soit-elle. Agnès, d'un milieu bourgeois, provincial, bien pensant, catholique, et Hélène, fille d'immigrés juifs, on ne sait pas très bien d'où, etc. Et ces deux-là, qui n'étaient pas du tout faites pour être ensemble, se trouvent réunis dans cette situation du... culpabilité, de reproches qu'on leur fait à l'une et à l'autre. À Agnès, on lui reproche de sortir avec on ne sait qui, et à Hélène, on lui reproche de s'enfermer dans des études ou
Les études, c'est très important
on lui reproche d'être trop centré un peu sur elle-même, sur son physique peut-être.
On ne lui reproche rien.
Si.
Les parents ne reprochent pas ça. Ils lui reprochent le questionnement. Oui, enfin, ils ne supportent pas le questionnement,
moi qui
plutôt.
Souvent.
Voilà.
Et donc,
pardon, on va poser la question à Clara.
Notamment pendant les scènes de repas, où
terrifiante, je dois dire.
Lorsqu'il y a un moment de partage, mon personnage, Hélène, donc, décide de souvent s'enfuir, ou bien d'installer un dialogue et de poser des questions, d'essayer de délivrer quelque chose, et voilà.
Donc c'est... Mais vous y arrivez, enfin, dans la pièce, Hélène y arrive très bien à délivrer parce que elle permet, elle autorise ses parents de dire quelque chose, et c'est très très beau, d'ailleurs, le père d'Hélène n'a aucune arrogance, il n'a qu'une sorte de timidité, et ça, Michel, vous le jouez très bien.
Merci. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est ce que fait Hélène pour eux, c'est vraiment un sauvetage, quoi. Donc c'est, et elle se sauve elle-même aussi en même temps, mais elle leur permet d'avancer dans une vie où ils ont pu mettre des mots sur une situation, sur ce qu'ils ont vécu, et ça, c'est vachement important. Grâce à cet amour, en fait.
Il y a une sorte de fantôme que Sarah, la mère d'Hélène, a fait émerger à un moment dans une situation vraiment très 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 angoissante pour le public. C'est un cri, le cri d'un nom. À quoi ça peut se raccrocher, ce nom et ce cri?
Mais justement, pendant les répétitions, Nicole nous a fait part, elle l'a rajouté après, cette partie. Donc cette partie, elle a été rajoutée après, et on avait déjà commencé les répétitions, et tout d'un coup, elle me donne ce petit bout de texte en plus, en me disant, voilà, il va falloir que tu donnes ça, bon, très bien. Et du coup, cette Rebecca, on s'est posé la question, enfin moi, évidemment, en tant que comédienne, je me dis, qui est-ce? Et elle m'a dit, bah, on sait pas, on n'a pas, enfin, ça peut être la sœur, ça peut être n'importe quel personnage, enfin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, et on laisse ça en suspens, et c'est très bien comme ça, parce que justement après, de toute façon, dans le dénouement entre nous, elle ouvre une valise, il y a des personnages, et qui sait, peut-être que cette Rebecca est dans ces photos-là, et moi je trouve ça bien aussi au théâtre de laisser un petit peu la part à l'imagination du public.
Un grand mystère, en effet, que ce cri qui vient des tripes, hein, c'est des profondeurs. C'est très beau de savoir que les fantômes, au fond, n'ont peut-être pas complètement de nom, n'ont pas complètement de visage, et donc ça laisse la place au doute.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est justement un des moments charnières d'Hélène, quand tout d'un coup elle va demander la question à son père, qu'est-ce qu'elle a, maman? Et le père minimise, tout va bien, je lui donne un cachet, ça la calme. Voilà, c'est.
Elle est fatiguée.
On essaye toujours de. On met ça sous le tapis, tout le temps. Et c'est quand même un moment très fort où comment c'est possible qu'il ne se passe rien. Évidemment qu'il se passe des choses. Donc là, ça fait ressortir encore plus. Là.
Ça fait ressortir, en effet, un de vos choix musicaux, d'ailleurs, qui est Anne Sylvestre. Une belle grande voix des années 60, auteur aussi comme vous. C'est un choix du groupe et c'est une très belle chanson. Les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrer. nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Voilà, vous êtes toujours sur IDFM et vous n'en doutez pas un instant. IDFM Radio dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy et l'équipe de cette superbe pièce qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest à Paris, tout près des Grands Boulevards d'ailleurs, on le rappellera tout à l'heure. Le silence des lendemains. On a parlé beaucoup des silences. Par contre, il y a des paroles qui sont très très puissantes, très fortes, et qui sont d'ailleurs données par les jeunes filles, Agnès aussi bien qu'Hélène, à leurs parents, et qui leur permet à eux de se libérer. Et on peut revenir un peu sur cette question-là, Clara.
Il y a dans la pièce une grande solidarité féminine qui est quand même un élément très important, je trouve, où, par exemple, moi, comme Hélène, donc comme Agnès, elles vont aider leur maman à s'émanciper de ce carcan. Par exemple, moi, Hélène, j'aide ma maman à s'émanciper du repas qu'elle doit préparer. Elle doit installer la table, etc. Et elle va aussi, elle, faire un premier pas en achetant une télé.
Ah ça, alors là oui, c'est vrai que dans les années 60, s'offrir une télé, alors que le père n'est pas très d'accord, Sarah, Isabelle, comment vous jouez ce moment-là?
Oui, alors j'allais justement rebondir par rapport à la télé, parce que c'est vraiment le moment où elle essaye malgré tout de faire un geste pour sa fille. C'est énorme parce qu'en plus le personnage elle utilise ses économies à ce moment-là, ses économies pardon, c'est pas rien, voilà. Et c'était quoi la question, pardon?
Mais comment vous jouez, quelle importance ça? C'est un objet transitionnel, un peu, comme on dirait en psychanalyse.
Exactement, c'est exactement ça, un objet transitionnel qui permet de véhiculer ce qu'elle peut pas faire et ce qu'elle peut pas dire à sa fille par cet objet qui est vraiment, d'ailleurs, à la fin de cette première scène avec la télé, elle va pour l'embrasser, Hélène, pardon, elle va pour embrasser sa mère et sa mère se recule, c'est-à-dire voilà, tu vas moins t'ennuyer maintenant qu'il y a la télé, parce que je sais très bien, enfin la mère sait très bien que c'est pas facile pour elle, mais elle peut pas encore parler et donc elle lui offre cette possibilité de voilà de.
Et celui qui est opposé à ça parce qu'il trouve que finalement c'est pas du tout l'objet idéal.
Oui,
le père.
Oui, le père. Oui, mais il est pas forcément d'accord parce que bon, ça, elle va poser encore plus de questions, elle va apprendre des choses, elle va écouter des émissions, elle prépare d'ailleurs un exposé, donc elle dit qu'il y a un documentaire qui est passé là-dessus, donc elle va peut-être encore les questionner sur ses origines, et ça, il a beaucoup de mal. Pas par méchanceté, hein, mais c'est vraiment parce qu'il il est complètement renfermé là-dessus, quoi. Il est...
Oui, justement, comme tu dis, c'est un moyen d'information bien plus vaste que quelques livres.
Voilà. Lui a peur, c'est ça. Il a peur du progrès. Il a peur peut-être de voir des choses qui ne lui plairaient pas. On a longuement évoqué ce drame dans les familles, à la fois du silence, de ce qu'on ne peut pas dire, de ce que l'on a refusé de dire, mais parce que sans doute que les gens n'étaient pas, ils se sentaient vulnérables, oui. Victimes. Pourquoi nous est-ce qu'on est encore là? C'est ce que vous dites, Nicole Gros, dans votre texte.
Oui, il évoque une père dans sa grande déclaration. Enfin, quand il libère la parole devant sa fille, de quoi on était coupable? On était coupable de quoi? Elle, si la mère dit, on s'est senti coupable, on s'est senti bon. Et après, il avoue que, ben oui, coupable, on l'était aujourd'hui, on l'est aujourd'hui du mutisme et du silence, bien sûr, oui.
Le silence est toujours dangereux. Et j'aimerais poser la question à Anne Bartel sur le danger que représente la poussière sous le tapis. J'ai vraiment senti que vous en vouliez beaucoup à votre mari, le juge, d'avoir... comment dire, fait peser sur votre fille Agnès quelque chose qu'il cachait au fond, notamment dans la bibliothèque qui reste totalement, d'ailleurs, on ne sait pas quels sont les livres qui sont alignés dans cette bibliothèque, lui il tient beaucoup, mais ce silence, cette domination, c'est quelque chose qui, on sent que, aussi bien chez votre personnage que chez la comédienne que vous êtes, ou chez la femme que vous êtes, il y a des comptes quand même qui ne sont pas bien résolus.
Oui, on a tous notre petit sac à dos, oui. Oui, oui, non, mais je pense, en plus que pour Madame des Essais, on peut poser aussi la question au personnage d'Agnès, mais elle veut libérer sa fille d'une certaine façon, mais elle veut aussi se libérer. Parce que les silences, elle en souffre. Elle le dit, 20 années de silence, etc., elle les a subies. Et je pense que tout ça aussi est le moyen pour elle, tout d'un coup, d'éclater. D'ailleurs, à cette époque, quand on se séparait de son mari, c'était pas rien. Et elle l'annonce, et elle le dit. Elle veut pas demander forcément. Elle veut pas forcément demander un divorce, mais en tous les cas, elle veut se séparer de ce qui lui semble, de toute façon, trop de mensonges, trop de froideur, enfin tout ce qu'elle lui reproche, quoi. Et puis ces absences, mais aussi la scène importante où elle lui demande de faire un petit peu une forme de mea culpa, ou en tous les cas de regarder un peu son histoire et d'accepter certaines choses, et qu'il dit je ne suis pas un délateur, il ne se remet absolument pas en question.
Il a fait son boulot. Comme on disait au procès de Nuremberg, Eichmann disait « J'ai fait mon boulot, on a obéi ». Voilà, on va finir bientôt cette émission, mais sans oublier de danser, parce que il faut aussi, on a une superbe troupe de comédiens, on va danser avec Nougaro, « Danser sur moi ».
Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, oh mais, ça y est.
Voilà, pour terminer cette superbe émission avec Nicole Gros et toute sa troupe sur IDFM Radio Entre Chiens et Loups, nous allons poser cette question qui est au centre, je crois, de toute l'œuvre dramatique de Nicole Gros qui concerne l'humain. Au fond, vous posez la question au cœur de cette pièce, comment est-ce que on reconstruit l'humain après les drames, après les deuils, après les séparations, toutes sortes de situations. Nicole Gros.
Oui, parce qu'il y a d'abord la question comment on construit l'humain, comment on se construit, mais alors surtout précisément dans des cas dramatiques, comment on se reconstruit. Moi, je crois que, en tout cas, c'est pas en s'isolant au milieu, dans une famille, au sein d'une famille. Il y a un très très beau film auquel je pense toujours, peut-être parce que ça s'apparente un peu à mon histoire, c'est La chambre du fils de Nanni Moretti, où le fils meurt accidentellement. C'était une famille très liée, il y a le père, la mère et la fille aînée, enfin un peu plus âgée, du peu près du même âge que le fils. Et là, ils sont incapables de vivre le deuil ensemble. Et donc, ils vont se séparer. Chacun va pleurer dans son coin. Et ça arrive très souvent, ça, malheureusement, qu'un drame comme ça, une tragédie familiale, des parents, par exemple, se séparent. Très souvent, à l'issue. Je trouve ça insupportable, parce que c'est ajouté. Voilà. Mais on ne peut pas juger. C'est-à-dire que chacun vit le deuil, enfin, l'absence, la mort, la disparition à sa façon. Et quelquefois, ça se télescope. Voilà.
On reconnaît que dans cette pièce, ce sont les jeunes Agnès et Hélène qui savent bien coudre et qui savent, qui n'ont pas peur de la vérité, qui exigent la vérité. Voilà. Un très grand merci à vous toutes et tous. Isabelle, encore un mot.
Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose pour nos camarades de l'ombre. J'aimerais quand même qu'on les remercie, en tout cas, notre costumier Frédéric Morel, notre assistante à la mise en scène Elisa Vega Baron et notre extraordinaire éclairagiste Patrice Lecadre qui nous a fait, comme vous l'avez constaté, des lumières très très belles et qui nous permettent aussi de jouer cette pièce avec cette intimité-là.
Merci pour eux. Merci Michel Morat. Merci Isabelle Francesco.
De Francesco, merci.
De Francesco. Merci Clara Durand.
Clara-Marie Durand.
Me voilà remis dans l'axe. Merci Bernard Sander.
Rien à dire, tu as tout bon.
Merci Anne Bartel.
Impeccable.
Et merci Jade Lenoir.
Merci à vous.
Un très grand merci Nicole Gros pour cette pièce donc qui se joue au théâtre du Nord-Ouest.
13 rue du Faubourg Montmartre, métro Grand Boulevard. On ne peut plus central dans Paris. Voilà.
À côté du Bouillon-Chartier.
À côté du Bouillon-Chartier, voilà. C'est une référence. Et donc, on joue en alternance. Donc, il faut, si vous n'avez pas les flyers dans les mains, on essaye de les faire circuler. Mais vous pouvez aller sur le site du Théâtre du Nord-Ouest et il y a le calendrier du théâtredunordouest.com.
Hein, il y a beaucoup de dates.
Elle est billets réduits. On a de très bonnes critiques sur billets réduits. Donc, non seulement, vous, comme ça, vous avez quelque chose sur la pièce et puis un tarif préférentiel. Alors, vous voulez que je dise les dates qui restent? Donc, nous sommes aujourd'hui le...
Le 1er mai.
Ah oui, le 1er mai, pardon. 1er mai. Donc, la prochaine représentation, c'est le mardi 9 mai à 20h30. Le samedi 13 mai à 21h, le dimanche 14 mai à 16h30, le mardi 16 mai à 20h30, mercredi 17 mai à 20h30, mardi 23 mai à 20h30, vendredi 26 mai à 18h30, samedi 27 mai.
On va
à 14h30.
Peut-être laisser voilà. Sur le voilà. Site de Billets Réduits avoir le calendrier.
Parce jusqu'au 23 juin 18h30.
Et voilà. Du 1h25.
Voilà. Un très grand merci si vous voulez être vraiment touché, bouleversé pour les jeunes, pour les moins jeunes. Ça concerne tout le monde hein, et ça concerne la vie de chacun.
Je voudrais ajouter que contrairement à les théâtres parisiens un peu difficiles d'accès, nous pouvez venir sans avoir réservé. On vous accueillera de toute façon.
très jolie salle, très bien éclairée avec ses costumes typiques des années 60. Bravo à tous et encore un grand merci. Il est bientôt 19h, c'est l'heure de retrouver Lusso Mundo, l'émission en langue portugaise. Un très grand merci à vous tous et un grand merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une rediffusion. On a écouté Léo Ferré tout à l'heure. On va réécouter le très bel entretien que nous avons eu avec Jocelyne Sauvard, sa biographe. Bonsoir à tous et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio.